Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il ne suffit pas de vouloir lutter contre le harcèlement de rue, encore faut-il avoir les moyens de verbaliser. Eh bien, le ministre de l'Intérieur y a pensé. Gérard Collomb a annoncé jeudi dernier que les agents de la police de sécurité du quotidien seraient équipés de tablettes numériques. Ils pourront ainsi mettre des amendes immédiates et vérifier que le contrevenant n'est pas un récidiviste. Pouvoir prendre en charge ce type de problématique, a ajouté le ministre, participe à la sécurité et à un sentiment de tranquillité. Or, rien ne dit que la nouvelle infraction, si elle est votée, sera efficace pour lutter contre un phénomène aussi flou juridiquement que le harcèlement de rue. Mais ce qui pose aussi question, même si cette question est peu posée, ce sont les moyens que suppose une telle loi pour être efficace. Faudra-t-il davantage de caméras, de policiers pour la rendre applicable? Et dès lors, le jeu en vaut-il la chandelle? D'autant que, comme le notaient plusieurs chercheurs dans une tribune récente publiée dans Libération, en créant cette nouvelle catégorie dans le domaine pénal, la rue, disent-ils, devient la cible renouvelée des politiques publiques. Du même coup, elle vise les populations qui l'occupent, lesquelles appartiennent souvent aux fractions paupérisées et racisées. Alors un raisonnement, on pourrait l'appliquer à d'autres extensions du domaine de la loi, comme par exemple tout ce qui touche, directement ou indirectement, à la lutte contre le terrorisme. Ainsi, le tout dernier texte consacré au sujet qui élargit les possibilités de contrôle d'identité aux abords des gares et des aéroports. Alors, y a-t-il un excès de judiciarisation de l'espace public? La rue est-elle victime de harcèlement judiciaire? Eh bien, c'est de cette question dont nous allons débattre ce soir en compagnie de trois invités. Mireille Delmas-Marty, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, professeur honoraire au Collège de France. Parmi les nombreux ouvrages que vous avez publiés, je citerai le dernier. C'était l'an dernier aux éditions du Seuil, aux quatre vents du monde. Petit guide de navigation sur l'océan de la mondialisation. Pour discuter avec vous, Virginie Duval, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrate. Vous présidez l'USM, qui est l'Union syndicale des magistrats, une des organisations professionnelles du secteur. Et puis, troisième invité, Patrice Spinozzi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous enseignez à l'École de droit de Sciences Po. Parmi vos clients compte notamment la Ligue des droits de l'homme. Je la cite parce que les questions que nous allons aborder ce soir concernent directement la question des libertés individuelles. Alors, je voudrais qu'on commence par la question du harcèlement de rue. On a donc choisi de rapprocher un harcèlement de rue, lutte contre le terrorisme, ça peut paraître un petit peu audacieux, mais l'idée étant, dans le cadre de cette discussion, de voir en quoi finalement les demandes de sécurité qui émanent de chacun des projets législatifs peuvent être considérées comme relevant d'une tendance qui consiste justement à vouloir davantage de tranquillité, davantage de sécurité, peut-être au détriment de certaines de nos libertés. Mais commençons donc par la lutte contre le harcèlement de rue. Je ne veux pas vous demander si vous considérez que c'est légitime ou pas de vouloir lutter contre ce phénomène, mais est-ce que ça vous paraît utile, intéressant que de vouloir créer une infraction spécifique contre ce phénomène, Virginie Duval?
On a l'impression que à chaque fois qu'un phénomène important prend de l'ampleur, et on a vu ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux et l'émotion légitime que cela peut susciter, donc on a cette impression qu'à chaque fois qu'un nouveau phénomène apparaît, on doit légiférer, on doit faire une nouvelle loi. Pour laisser penser aux citoyens que la question est prise en compte par le gouvernement, le législateur. On s'interroge rarement sur l'existant et sur le fait que l'existant soit ou non suffisant et soit ou non appliqué.
L'existence est notamment une loi contre le harcèlement sexuel, voilà, qui date de 2012.
Et en matière de harcèlement, on a une loi sur le harcèlement sexuel. La difficulté, c'est l'applicabilité de cette loi sur le harcèlement sexuel.
L'applicabilité d'ailleurs, alors s'agissant de ce qui pourrait être une nouvelle infraction qui s'intitulerait harcèlement de rue, ça serait peut-être déjà de définir ce que serait le harcèlement de rue. C'est peut-être d'autant plus compliqué à appliquer que ça se passe à l'extérieur. Mireille Delmas-Marty, vous en pensez quoi, vous?
Je pense que c'est une définition extrêmement difficile. Et je pense, comme il vient d'être dit, que c'est un peu une sorte de marketing aussi législatif, utiliser la loi comme instrument pour dire oui, on fait quelque chose, il y a un problème, on le reconnaît, donc on fait quelque chose. Et ça me paraît dangereux parce que c'est une pratique qu'on connaît depuis longtemps, en fait. On se souvient que dans les années... à partir de 2005-2007, on a commencé à traiter de cette manière-là la récidive en matière d'ailleurs d'infraction sexuelle. À chaque nouveau fait divers répondait à une nouvelle loi. On a eu une cascade de lois contre la récidive, un peu dans cet esprit de marketing législatif, d'utiliser la loi comme un instrument d'affichage. Et je crois que ça c'est dangereux. Si on veut réellement incriminer un cas particulier de harcèlement, il faut arriver à le définir, et c'est très difficile. C'est vrai que du côté de ceux qui demandent ce texte, il y a un appel à un droit pénal un peu d'exorcisme. Un droit pénal qui a pour fonction de faire prendre conscience d'un problème sans pour autant le résoudre. Alors, est-ce que ce sera efficace? Et d'abord, est-ce que ce sera effectif? C'est-à-dire, est-ce que cette loi pourrait être appliquée?
Voilà, alors il y a un groupe de travail qui est mis en place, qui ne témoigne peut-être d'un futur plutôt avorté pour une telle loi, parce qu'en général, quand il y a des groupes de travail, ça ne débouche pas toujours sur des choses très, très concrètes. Mais sur la question de la difficulté à définir ce que pourrait être le harcèlement de rue, Patrice Spinozzi, si une loi est mal définie, est-ce qu'elle prend aussi le risque peut-être de ne pas passer l'étape, par exemple, du Conseil d'État?
C'est certain que à partir du moment où on est dans une loi pénale, la loi pénale doit être parfaitement claire et lisible. Sinon, elle prend le risque de ne pas passer effectivement le fil du Conseil constitutionnel. Et les premières personnes, si tant est qu'il y en ait, qui seront verbalisées, pourront, le cas échéant, attaquer la loi elle-même et la remettre en cause. Donc, évidemment, la définition sera très difficile. On se souvient d'ailleurs que la notion même de harcèlement sexuel, telle qu'elle avait été initialement définie par le législateur, a été abrogée par le Conseil constitutionnel, précisément du fait d'une absence de définition suffisante, ce qui a amené le gouvernement à devoir reprendre une nouvelle définition du harcèlement sexuel. Donc on voit bien que sur ces questions-là, la question de la détermination des termes exacts, de savoir qu'est-ce qui peut être véritablement incriminé, est extrêmement difficile et il faut tout le talent du législateur pour réussir à incriminer de façon raisonnable ce type d'infraction. On voit bien, moi je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit hein, sur la question plus générale à travers cette loi, de la volonté aujourd'hui qui est véritablement un tropisme législatif à mon avis très grave pour notre démocratie, de la nécessité des gouvernants, parce qu'au fond ils se sentent assez impuissants à régler un certain nombre de problèmes de société, parce qu'ils se sentent responsables d'un certain nombre de problèmes de société, à nécessairement réagir par la loi. La loi, vous savez, ça a un avantage, c'est que ça ne coûte rien et ça permet de prétendre qu'on agit. Un problème, une loi...
Enfin, ça ne coûte rien, sauf si on décide de l'appliquer.
Ça ne coûte rien de le dire. En termes de communication, et là je parle, on va dépasser un instant la question du harcèlement de rue, qui est un phénomène évidemment qui est lié à l'actualité, mais qui en réalité, son absence d'application, c'est le cas, ne gênera pas véritablement les citoyens. Mais vous avez fait le rapprochement avec la question des lois antiterrorisme, et on peut parler plus généralement de la question de l'état d'urgence, dans laquelle nous sommes toujours. On voit bien là des lois qui ont été prises par le législateur avec une volonté là aussi d'afficher que le législateur réagissait et avec un impact qui est un impact réel sur notre vie en tant que citoyen, avec une efficacité là aussi dont on peut discuter largement.
Virginie Duval.
Oui, et cette volonté de réagir, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, masque aussi le fait que on ne réfléchit pas à ce que veut notre société. Sur le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel, on a l'impression que la loi va tout résoudre. Mais on ne réfléchit pas à l'éducation. Or, toutes ces questions-là, elles prennent beaucoup plus de temps. Et une loi, ça prend finalement moins de temps et on donne l'impression de réagir et d'avoir résolu le problème. Sauf qu'on a vu ça à de multiples reprises. Je pense notamment à l'interdiction de squatter dans les halls d'immeubles. On s'était dit que c'est un phénomène de société important contre lequel il faut lutter. Il y a eu une loi. Je n'ai pas le sentiment que ce phénomène ait été résolu.
Ce que dit le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, il l'a dit donc en présentant le dispositif, et puis les projets d'équipement pour la nouvelle police de sécurité du quotidien la semaine dernière, c'est que prendre en charge cette question du harcèlement de rue à travers notamment une nouvelle infraction, Mireille Delmas-Marty. C'est un type de problématique qui participe à la sécurité et à un sentiment de tranquillité. C'est aussi à partir de cette phrase qu'on a imaginé cette discussion, parce que finalement, est-ce que il n'y a pas une réflexion qui est peut-être beaucoup plus poussée qu'on ne l'imagine de la part des politiques, qui essaierait de répondre à travers les différentes lois à une demande sociale qui aujourd'hui serait davantage dirigée vers la question de la sécurité plutôt que vers celle de la liberté.
Oui, heureusement, il n'a pas repris la formule qui avait été très utilisée il n'y a pas si longtemps, de la sécurité première des libertés, comme s'il y avait une priorité pour la sécurité par rapport aux libertés, alors qu'il y a un équilibre qu'il faut essayer de trouver, qui n'est pas facile à trouver, qui est difficile, mais qui est nécessaire. Parce que, et il faut quand même le rappeler, la sécurité absolue, ça n'existe pas. Donc de toute façon, il y a un équilibre à trouver entre la part de risque qu'on est prêt à prendre pour maintenir, sauvegarder un certain nombre de libertés.
Parce que par exemple, dans le cadre du harcèlement de rue, Mireille Delmas-Marty, si on voulait que cette nouvelle loi, si elle voit le jour, soit absolument efficace, ça supposerait quoi, qu'il y ait beaucoup plus de surveillance qu'il n'y en a aujourd'hui, davantage de caméras, davantage de policiers?
Oui, simplement pour qu'elle soit effective, c'est-à-dire qu'elle puisse être appliquée. Il faudrait déjà avoir des moyens de surveillance qui risquent de modifier considérablement, de réduire considérablement nos libertés. Ensuite, ce n'est pas parce qu'elle est appliquée qu'elle est efficace. Un certain nombre de dispositions en matière de terrorisme sont appliquées, ce n'est pas forcément efficace sur les comportements des criminels potentiels. Donc il y a une sorte de mouvement général. Et je crois que ce qui est intéressant dans votre idée, au fond, de mettre ensemble ces deux questions qui sont apparemment très différentes, du harcèlement de rue d'un côté, du terrorisme de l'autre, l'intérêt, c'est de voir qu'il y a quelque chose de transversal, qui est la montée en puissance d'une société de la peur à laquelle les dirigeants répondent par une société qu'on peut appeler comme on veut, de la surveillance ou de la suspicion ou du contrôle. Et ça, c'est un choix de société, mais qui se fait sans qu'il y ait un grand débat. Et qui se fait, c'est d'autant plus difficile d'y réfléchir, que les questions sont compartimentées. Et là, bravo de les avoir justement décloisonnées.
Ben merci.
Mais que non seulement les questions sont compartimentées, mais elles sont les dérives, si on peut parler de dérives par rapport à une sorte de modèle idéal qui serait l'état de droit démocratique. La dérive, elle ne se fait pas brusquement. Elle se fait lentement, de façon pratiquement continue. Je dirais au-delà d'ailleurs des clivages droite-gauche. Il y a une sorte de mouvement général qui n'est pas seulement en France, d'ailleurs, qu'on peut observer dans d'autres pays. Donc on peut se demander comment faire pour arrêter cette dérive si on la croit dangereuse, ce qui est mon propre sentiment.
Alors maintenant que cette problématique a été validée par Mireille Delmas-Marty, je peux me tourner de manière peut-être plus décontractée vers Patrice Spinozzi et Virginie Duval pour évoquer justement alors la question de ce que vous disiez, Mireille Delmas-Marty, peut-être la nécessité de décompartimenter justement un certain nombre de mesures qui a priori n'ont rien à voir mais qui participent peut-être d'un même phénomène. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Patrice Spinozzi?
Alors, le phénomène dont on parle, c'est la judiciarisation de notre société, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on avance avec de plus en plus de droits, de plus en plus de normes. Et si on décompartimente, on voit bien qu'on peut mettre en lien un nombre de réglementations considérables. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup moins libres d'agir qu'avant. C'est une réalité évidente. Et cela, en tant que citoyen, dans toute une série d'actes de la vie quotidienne.
Là, on s'intéresse en particulier à l'espace public.
Alors, sur l'espace public, parlons de l'espace public. Il y a eu toute une série de modifications en matière, par exemple, de possibilités de fumer dans l'espace public. Aujourd'hui, c'est interdit. En matière de possibilités de conduire dans l'espace public. Aujourd'hui, toutes les vitesses sont limitées. Aujourd'hui, de la même manière, il y a une tolérance qui est beaucoup moins forte que celle qui existait auparavant en matière de
d'alcoolisme, par exemple. Petit à petit, toujours sur l'espace public, on voit bien qu'il y a eu une montée aussi d'une volonté de régulation du phénomène religieux sur l'espace public. On voit bien, pour ceux qui l'ont connu, que en 40 ans, les choses ont considérablement changé. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle est la raison de ce phénomène. Une des raisons, c'est évidemment ce qui a été exposé par Mireille Dalmas-Marty, c'est la peur. On vit aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une société où les gens ont de plus en plus peur. Pourquoi les gens ont-ils de plus en plus peur? Aussi, parce que vous l'avez dit, les gens sont dans un fantasme d'une sécurité absolue qui ne peut pas exister.
Enfin, c'est pas juste du fantasme, hein, Patrice Spinozzi. La menace terroriste existe.
Là, quand je parle de fantasme, pourquoi ? Il y a une réalité. Et il faut arrêter de mentir aux gens. Ça n'est pas avec des lois qu'on va arrêter les terroristes. Voilà.
D'autant que désolé. C'est un terrorisme global, voilà. Et que nous faisons des lois françaises.
Moi, je suis désolé. Si on veut parler vrai, voilà, les hommes politiques passent leur temps à dire ils disent pas ne vous inquiétez pas, mais ils disent nous allons faire des lois, nous allons modifier la loi lorsqu'il y a effectivement un acte, un fait divers, on va dire, on va avoir des lois plus répressives. Bon, mais ça ne change rien. Il faut arrêter de croire qu'on va pouvoir arrêter les actes aussi violents. Violent soit-il, qu'il s'agisse des actes isolés ou qu'il s'agisse d'actes de terrorisme. Il faut arrêter de faire croire aux gens que parce que on va créer de nouvelles réglementations, on va empêcher les gens d'être malades ou on va empêcher les accidents d'arriver. Ça n'existe pas. Le problème, c'est que aujourd'hui, notre société occidentale n'accepte plus cela. Nous sommes dans une société de la responsabilité. Aujourd'hui, toute personne individuelle qui subit un traumatisme veut trouver un responsable. Et aujourd'hui, le droit doit pointer un responsable. C'est ça notre problème. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de droits. Et c'est pour ça que les hommes politiques répondent face à ce besoin, qui est le besoin des citoyens, de trouver un responsable, eh bien, par la loi. Et je ne suis pas sûr que ça soit la bonne réponse.
Virginie Duval, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Et si oui, pour quelle raison le discours politique semble porter davantage auprès de l'opinion que le discours, disons, juridique, en tout cas celui que vous tenez ce soir?
Parce que le discours politique, il est dans l'émotion. Et au-delà finalement de la raison, on prend peu le temps, comme ce soir, de réfléchir à tout cela. C'est toute la question du curseur, des obligations ou des interdictions que l'on pose. Est-ce que c'est pour protéger la sécurité, la santé, la morale? Il y a beaucoup de choses qui ont été, beaucoup d'exemples qui ont été évoqués. Et tous ces exemples ont concerné des lois avec des curseurs différents. Protéger la sécurité, c'est pour, par exemple, tout ce qui concerne les contraventions en matière routière, le téléphone au volant, on est bien là sur la notion de sécurité. L'interdiction de fumer, on est là sur une question de santé, voire de morale peut-être. Et puis le harcèlement de rue, on est là sur une question de morale. Et finalement, on atteint aux libertés à un même niveau, quelle que soit la valeur que l'on souhaite défendre, avec cette notion d'émotion qui est mise en avant, parce que évidemment qu'on peut pas être pour le harcèlement, qu'on peut pas être pour mettre la santé des gens en danger. Donc forcément, ça parle à beaucoup de gens qui sont derrière ou devant leur poste de télévision.
Mais peut-être aussi parce qu'on surestime l'importance que les individus dont nous sommes accordent à la question de la liberté individuelle et qu'on a peut-être sous-estimé l'importance qu'on accordait plutôt à la question de la sécurité, de la tranquillité, par exemple de pouvoir se déplacer dans la rue. On peut aussi peut-être penser que aujourd'hui, alors par rapport à la menace terroriste, mais il y a tout un tas d'autres sujets que vous venez d'évoquer, on peut se sentir peut-être plus en sécurité, même si effectivement la sécurité n'est pas plus importante, mais parce qu'on va voir des policiers, parce qu'on va voir des militaires, par exemple, dans les transports, et qu'on va se sentir, oui, plus en sécurité.
Il ne faut pas oublier que la loi a été votée à une très large majorité, à l'Assemblée nationale en tout cas, et avec très peu d'opposition. Des oppositions, d'ailleurs en partie des noms, des refus de vote qui venaient en partie du fait que la loi n'aurait pas été assez loin.
Oui, voilà, la dernière qui vient d'être votée, voilà, c'est notamment les députés, les Républicains qui considéraient que c'était pas assez dur.
Ça n'est pas assez loin, mais si on regarde sur quelques 500 membres de l'Assemblée nationale, je crois qu'il y en a 30 qui trouvaient qu'on allait trop loin. donc une vaste majorité. Alors, il y a un autre signe qui est intéressant, ce sont les arguments qu'a utilisé le ministre de l'Intérieur pour légitimer la sortie de l'état d'urgence. Il n'a pas dit retour à l'état de droit, il n'a pas dit retour aux libertés, il a dit attention pour les investissements et pour le tourisme. Si la France reste en état d'urgence, c'est dissuasif pour une entreprise qui souhaite venir s'installer en Europe. Elle choisira un pays où il n'y a pas d'état d'urgence. Même chose pour les touristes. Étant donné que les compagnies d'assurance ne remboursent pas en matière de terrorisme, on va perdre des touristes. C'est ahurissant que le retour à l'état ordinaire, à l'état normal, mais en fait à l'état de droit, soit argumenté uniquement sur ce type d'argument. Ça veut dire que c'est ce qu'il, en tout cas ce que le ministre pense être l'attente de nos concitoyens. Donc il y a pas seulement, je dirais, les sociétés de la peur, mais il y a peut-être une manière de gouverner par la peur, de gouverner en s'appuyant sur la peur. Et ça, c'est quelque chose qui peut être inquiétant. Alors, on n'a pas parlé, mais on y reviendra peut-être plus loin, dans les interventions dans la vie quotidienne et dans la rue, on n'a pas parlé de la question du voile. Et là, je crois qu'il y a des interrogations qui ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que ce n'est pas en termes de sécurité que le problème s'est posé, mais c'est en termes de vivre ensemble, de conditions d'une vie démocratique.
Voilà, qui était un peu différent. Alors, s'agissant du voile, c'est vrai qu'on était peut-être plus sur ces questions-là. Il y a eu, dans le cadre d'un autre vêtement, qui est un vêtement à connotation religieuse, disons, qui était le burkini, les fameuses affaires de burkini lors de l'été 2016, si ma mémoire est bonne, sur lesquelles d'ailleurs vous êtes intervenu, hein, Patrice Spinozzi, pour faire annuler des arrêtés municipaux. Là, on était quand même... De toute manière, déjà, on était dans un été où il venait d'y avoir des attentats à Nice. Et la dimension, en tout cas, sécuritaire, n'était quand même pas totalement absente de ces arrêtés municipaux.
Alors, si on parle un instant du burkini, l'exemple est effectivement tout à fait illustratif. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ces arrêtés qui sont pris, qui viennent interdire donc le burkini, qui en réalité n'est que le port d'un voile sur une plage, hein, ces arrêtés... Ils sont assez manifestement illégaux, c'est-à-dire que l'état du droit, il est assez clair. On est dans le cadre des pouvoirs d'un maire de réguler l'espace public. La plage, c'est l'espace public. Et le principe, c'est que ça n'est pas possible, sauf s'il y a un risque d'atteinte à l'ordre public. Et manifestement, il n'y a aucun risque d'atteinte à l'ordre public. Les jurisprudences du Conseil d'État en la matière étaient parfaitement claires. Donc, il a fallu aller jusque devant le Conseil d'État, avec effectivement toute la polémique que vous avez vue, pour au final avoir une décision qui vient redire ce qui était la jurisprudence classique du Conseil d'État. Qu'est-ce qui est intéressant ? Ce qui est intéressant, en termes de phénomène de société et de rapport au droit, c'est que, d'abord, il y a eu une polémique considérable, c'est-à-dire que chacun s'est déchiré sur cette histoire du burkini, que, par ailleurs, nous avons été la risée des médias internationaux, puisque là, on est en train de réfléchir sur notre rapport au droit. Il faut quand même savoir qu'on vit quand même dans une société globalisée et que notre rapport au droit n'est pas forcément le même que celui de nos voisins. Vous parliez par exemple du fait que les Français étaient peut-être rassurés par le fait d'avoir des militaires ou des gens en armes dans la rue. Dans d'autres pays, ça inquiète plutôt les gens. Vous allez par exemple en Angleterre...
Il y a peut-être une diversité, il y en a peut-être que
non,
ça inquiète
et que je veux dire, ça rassure. Ce que je veux dire, c'est que, enfin, on peut pas dire de toutes les façons on prend des lois inutiles à partir du moment où ça satisfait l'opinion publique et en mettant des forces de police dans la rue pour les rassurer. La loi, elle n'a pas vocation à faire plaisir et à rassurer. Elle a vocation à être efficace et à permettre d'arrêter les terroristes. Les forces de police, d'ailleurs, sont des gens tout à fait remarquables et on n'a pas besoin de les exposer. Ils ont suffisamment de travail comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, pour finir avec mon histoire de burkini, qu'est-ce qui est intéressant ? C'est qu'au final, quand le Conseil d'État a sonné un peu la fin de la récréation et a dit, attendez, la raison du droit, c'est que de toutes les façons, ça n'est pas possible. C'est hors de votre pouvoir de maire. Il s'est passé deux choses que moi, je trouve assez inquiétante. La première, c'est que les maires en question ont dit très bien, eh bien je continuerai quand même à interdire le burkini et ce, indifféremment de ce qu'a pu dire le Conseil d'État. Et ça, c'est catastrophique. Parce que quand derrière, vous sapez le rôle de la justice, et je parle évidemment sous le contrôle de Madame Duval, mais quand derrière, vous avez des élus qui sont des gens qui doivent être un exemple pour la nation, qui viennent dire le Conseil d'État a dit quelque chose, c'est pas grave, moi je vais faire autre chose, comment voulez-vous que nos clients, le justiciable normal, acceptent l'autorité des décisions de justice ? Première chose dangereuse. Deuxième chose dangereuse, c'est que
que les hommes politiques nationaux, qu'ont-ils dit ? Ils ont dit, écoutez, dans ces conditions, il faut changer la loi. Et quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible, ils ont dit, bah, peut-être qu'il faudra changer la Constitution. Et ça aussi, en termes de comportement de nos élus, c'est extrêmement grave.
Alors ça, c'est une vraie question que vous posez, parce que c'est...
Merci.
On peut se demander...
Non. Je suis content que vous le reconnaissiez.
Bon, on se fait des petits satisfaits comme ça ce soir. Hein. Non, mais c'est vrai que ça pose la question de ce que peut aussi le droit, ce que peut la loi, quand justement cette loi est modifiée pour satisfaire... Alors quoi, satisfaire ce que serait ou ce qu'on imagine que serait la demande sociale, Virginie Duval. C'est-à-dire, on voit vraiment qu'on est dans un phénomène qui est assez profond finalement et qui ne date pas uniquement finalement de la période que l'on vit là depuis 2011, de ces attentats répétés. C'est peut-être quelque chose de plus profond finalement.
Oui, la loi, elle doit être faite pour s'appliquer de manière générale à un ensemble de situations. Et le risque de créer des lois pour faire plaisir à l'opinion publique, c'est qu'ensuite elles soient inappliquées, du coup, et qu'elles créent un sentiment d'injustice pour le justiciable qui se dit, mais à quoi sert la loi et à quoi sert la justice ? Parce que malgré la loi... Mes droits, ma situation ne sont pas reconnus.
Alors là, on peut revenir justement à la question du harcèlement de rue, c'est-à-dire si c'est une loi qui passe mais qui n'est pas appliquée parce que pas applicable, il risque d'y avoir énormément de frustration et peut-être vaut-il mieux imaginer autre chose que le terrain législatif pour essayer de traiter ces questions.
Moi, je crois qu'il ne faut pas mentir à l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire que si une loi passe sur le harcèlement de rue, elle ne sera pas appliquée, parce que les policiers ne pourront pas, déjà il faudrait tomber sur une personne qui harcèle sexuellement, si la définition est établie, donc il n'y aura pas un policier derrière chaque individu, donc il n'y aura pas la preuve, donc il n'y aura pas d'éléments, et du coup les personnes qui se considèrent comme victimes de ce harcèlement ne seront pas reconnues comme telles par la justice. Et donc c'est ça qu'il faut absolument éviter, c'est-à-dire créer une espèce de paradoxe qui est de dire vous êtes mieux sécurisé, vous êtes mieux protégé, mais en fait, en réalité, ça n'est pas le cas.
Alors on s'interroge ce soir finalement sur les raisons qui font que les lois évoluent, que certains dispositifs sont pris, des raisons politiques, électoralistes, peut-être essayer de répondre à une demande sociale. Et puis il y a aussi peut-être des lois qui ont d'autres visées que celles affichées directement et celles assumées par ceux qui les font. Et prenons le cas justement de ce dernier projet de loi antiterroriste qui vient d'être adopté définitivement par le Parlement, qui a vocation donc à prendre le relais de l'état d'urgence à partir du 1er novembre. Et écoutez ce qu'en dit François Sureau. François Sureau, quelqu'un que Patrice Spinozzi connaît bien puisque vous êtes associé dans le même cabinet, qui était interviewé il y a quelques jours de cela dans le magazine Télérama. Et à propos de cette loi, il dit « Dans cette loi, l'extension des contrôles d'identité sans justification aux abords des aéroports est scandaleuse. Elle n'aboutira qu'à des poursuites pour infraction à la législation sur le séjour. Le ministre de l'Intérieur dévoie la lutte antiterroriste afin de combattre l'immigration illégale. Est-ce que la régulation de l'espace public aujourd'hui, elle a aussi d'autres visées comme celle-ci, Mireille Delmas-Marty.
En tout cas, dans le discours officiel, il s'agissait d'une loi qui, au contraire, ne reprenait certaines dispositions de l'état d'urgence que dans le cadre précis du terrorisme. Et effectivement, quand on regarde la loi article par article, notamment la partie sur les contrôles d'identité, on s'aperçoit que c'est le titre même de cette section de la loi, améliorer la prévention de la grande criminalité organisée. Et puis à l'intérieur, on voit encore apparaître quelque chose qui n'est ni du terrorisme, ni de la grande criminalité organisée, qui est l'immigration irrégulière. Donc on a une sorte de cercle qui s'élargit de plus en plus. Le noyau dur, c'est le terrorisme, mais autour, il y a la grande criminalité organisée, et plus loin encore, l'immigration irrégulière. Et là, c'est un discours qui est totalement en contradiction avec lui-même. Puisqu'un des arguments pour dire non, nous ne faisons pas simplement une transcription de l'état de droit dans l'ordinaire du code pénal, parce que nous nous limitons au terrorisme, c'est pas vrai. Et là, c'est quand même grave.
Et sans tomber peut-être dans la paranoïa, mais est-ce qu'on ne peut pas, du coup, à nouveau rapprocher cette législation antiterroriste et cette question du harcèlement de rue, qui peuvent être des dispositifs, bien entendu, différents et qui n'ont pas grand-chose à voir, a priori, à la navette Claude, mais qui peuvent être aussi des outils pour sanctionner, pour criminaliser, justement, ceux qui sont à l'extérieur. Et on pense notamment à la question des immigrés, notamment des réfugiés, Virginie Duval.
Oui, on sait que, pour revenir à ce qui vient d'être dit, par exemple, les règles procédurales spécifiques qui existent pour le terrorisme, elles sont également applicables à la grande criminalité, à la criminalité organisée. Par exemple, les gardes à vue plus longues. Rien ne nous dit que ce qui est envisagé là, dans le cadre de la loi en matière de terrorisme, ne sera ensuite pas étendu à la criminalité organisée et de manière tout à fait assumée ensuite à la lutte contre l'immigration. On sait que dès qu'un seuil est franchi, il est définitivement franchi. On revient rarement en arrière. Je n'ai pas d'exemple même de retour en arrière.
Et je cite à nouveau à la tribune de Libération que j'évoquais en début d'émission, publiée fin septembre, plusieurs chercheurs, notamment Eric Fassin, c'est celui qui me revient le premier à l'esprit, en disant: en insérant la catégorie harcèlement de rue dans le domaine pénal, la rue devient précisément la cible renouvelée des politiques publiques. Du même coup, elle vise les populations qui l'occupent, lesquelles appartiennent souvent aux fractions paupérisées et racisées. François Sureau, en évoquant la loi antiterroriste, il dit pas quelque chose de radicalement différent.
Non, bien sûr, mais la question, elle est beaucoup plus générale, si vous voulez. C'est-à-dire que cette loi antiterrorisme, qui en réalité n'a de sortie d'état d'urgence que le nom, puisque là aussi, le piège politique de l'état d'urgence, ça a été de renouveler nécessairement cet état prétendu de droit, parce que à partir du moment où on avait expliqué que c'était nécessaire pour combattre le terrorisme, eh bien c'était difficile de l'abandonner, sauf à prendre le risque à ce qu'il y ait un attentat le lendemain et que le gouvernement saute. Donc tout ça est évidemment, là encore une fois, une part d'affichage politique, donc il fallait en sortir la tête haute. Donc qu'est-ce qu'on fait? On garde les mêmes dispositions et puis on les introduit dans la loi antiterroriste. Et cette loi antiterroriste, qu'est-ce qu'elle a comme finalité? De donner plus de pouvoir aux forces de police, globalement, plus de liberté. Vous savez, là on est en train de s'interroger, de savoir les atteintes aux libertés des citoyens. C'est une histoire ancienne. De tout temps, en fait, la police, elle vous dit qu'elle a besoin de plus de renseignements pour assurer les sécurités des citoyens. Elle a besoin de pouvoir travailler sans être gênée par le droit. Et ce que je trouve là aussi extrêmement... Oui, mais ce qui est très dangereux, c'est de dire que le droit gêne la répression. C'est ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est quand j'entends des hommes politiques dire « Ah ben, il faut qu'on supprime le juge, je parle là encore une fois sous votre contrôle,
le juge judiciaire.
Mais pourquoi? Parce que c'est le juge de l'autorisation, il faut aller le voir avant de faire quelque chose. Moi, quand j'entends un homme politique qui dit « Voilà, il faut supprimer le juge parce que comme ça, ça ira plus vite », je trouve ça inacceptable. C'est très dangereux comme discours de faire croire que pour réprimer, il faut moins de liberté. Mireille Delmas-Martinez le disait tout à l'heure, et c'est elle qui a pensé le principe de la spirale de l'exception, le fait qu'effectivement, plus on va vers du droit dérogatoire et plus petit à petit, notre pays perd en démocratie. C'est ça la réalité, si vous voulez. C'est que aujourd'hui, on avance avec un phénomène répressif. Comme vous le dites, ça ne dérange pas les citoyens. Et c'est normal parce que on leur dit, les hommes politiques, les gens qui ont vocation à être crus, leur disent, c'est pour assurer votre sécurité. Sauf que, aujourd'hui, petit à petit, on perd pied. La démocratie, elle perd pied. Et demain, on aura un autre gouvernement on est en train d'écrire des lois pour dans 10 ans, pour dans 20 ans. Et qui sera le prochain président de la République? Nous n'en savons rien. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est qu'il trouvera à sa disposition un arsenal parfaitement répressif pour pouvoir aller écouter partout, pour pouvoir contrôler partout, à la seule détermination de notion de terroriste, qui est une notion extrêmement vague. Et nous sommes en train de créer petit à petit les instruments de notre propre répression future.
Virginie Duval.
Donner plus de pouvoir, entre guillemets, aux forces de l'ordre pourrait peut-être plus s'interroger si parallèlement il y avait plus de contrôle. Sauf que là, finalement, on donne plus de pouvoir et on diminue le contrôle de l'autorité judiciaire, en l'écartant même. Or, le contrôle de l'autorité judiciaire, il est normalement en amont des décisions. Alors, on évoque souvent le contrôle par un juge, mais c'est un contrôle par un juge administratif, et donc qui est a posteriori, c'est-à-dire après l'atteinte à la liberté. Et donc, forcément, elle a déjà été faite, cette atteinte aux libertés. liberté. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un mouvement depuis plusieurs années, mais qui est finalement qui se renforce même avec les attentats. On a eu plusieurs lois en matière de terrorisme avec les attentats, et toujours la difficulté, c'est de sortir de l'état d'urgence.
Et d'ailleurs, 8 en 5 ans, hein. Plusieurs lois, 8 en 5 ans. Ouais, c'est-à-dire que, ce qui est considérable, en fait. Hein, bon.
Il y a un dernier mouvement qu'on n'a pas encore évoqué, Mireille Delmas-Martin, on est presque à la fin de cette émission, lié à cette judiciarisation de la société, en particulier là, puisque c'est notre sujet de ce soir, de l'espace public. C'est peut-être aussi cette volonté, pas seulement d'avoir des lois pour sanctionner, mais aussi des lois pour qui permettraient d'anticiper, de prévenir le crime. Et j'ai retrouvé dans une interview que vous aviez donnée il y a quelques mois de cela, vous évoquiez ce mouvement tangible dès la loi sur la rétention de sûreté de 2008, qui ne concernait pas le terrorisme, mais la criminalité à caractère sexuel. Vous disiez, c'est à cette époque qu'on voit naître l'idée d'une dangerosité détachée de toute culpabilité. C'est là aussi qu'on voit que finalement, on peut assez facilement faire des liens sur ces mouvements de fond.
Oui, tout à fait, parce que dans les deux cas, on va vers une justice que j'appelle prédictive, c'est-à-dire c'est pas la justice pénale qui rétribue, qui punit la faute une fois commise, l'infraction une fois commise. C'est même pas une prévention à proprement parler, c'est de la prédiction. On remonte de plus en plus haut, loin de l'acte de passage à l'acte, on remonte à l'intention, de plus en plus haut. Donc le juge est supposé prédire le comportement. La notion de dangerosité, ça consiste à dire vous êtes présumé dangereux. Et présumé sur quelle base? Pas sur la base d'une preuve, puisqu'on n'est plus dans le domaine de la preuve, mais sur la base de l'avis d'une commission qui est composée de façon interdisciplinaire et qui vous déclare dangereux. À ce moment-là, il n'y a plus de présomption d'innocence.
Ça pourrait s'appliquer justement peut-être
de sa non-dangerosité.
Ça pourrait peut-être s'appliquer à la question justement du harcèlement de rue. J'y reviens, mais qui
peut être
aussi...
On peut retrouver la même idée de la dangerosité potentielle, puisque c'est pour les délinquants sexuels que la rétention de sûreté avait été imaginée et votée. On n'en connaît pas encore bien les effets parce que comme cette loi n'était pas rétroactive, elle a été très peu appliquée. Mais ce que je voudrais dire plus largement, au fond, c'est que je me demande si on n'est pas en train de vérifier, après quelques années d'espace, de nombreuses années, la prophétie qu'avait énoncée Tocqueville en son temps, quand il travaillait sur la question « à quoi va ressembler le despotisme en démocratie ?» Et il avait une description que je trouve prémonitoire en disant « Le despotisme en démocratie serait plus étendu et plus doux et dégraderait les hommes sans les tourmenter. » Et il ajoutait que ce despotisme couvrirait la société d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses, uniformes. Il tendrait à fixer les humains dans l'enfance et à réduire chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. Simplement, à l'époque, il n'avait pas imaginé la révolution numérique et les instruments extraordinaires de contrôle, de surveillance de masse que nous aurions, que les dirigeants auraient entre les mains quelques années plus tard.
Et est-ce que Tocqueville donnait des outils peut-être pour ne pas tomber ou pour sortir de ce despotisme-là?
Non, les outils, c'est à nous de les trouver et c'est urgent.
Vous êtes d'accord avec ça, Virginie Duval et Patrice Spinozzi, sur la nécessité de quoi? Alors, de, je sais pas moi, de que les gens manifestent, par exemple, fassent savoir qu'ils ne sont pas d'accord, au moins organiser des débats, peut-être.
Être vigilant, réfléchir et ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Ce n'est pas parce que on ne se sent pas concerné en disant moi j'ai rien à me reprocher que forcément on doit se désintéresser d'une question.
C'est peut-être la question, le propos le plus dangereux en fait, c'est-à-dire que tous les gens voient cela en se disant toutes les façons moi ça ne me dérange pas. C'est très grave en fait de le penser. Vous l'avez dit d'abord, évidemment l'ensemble de ces mesures touchent immédiatement les plus faibles. L'état d'urgence quand vous en discutez dans vos dîners parisiens, tout le monde vous dit bah moi ça ne me dérange pas. Si on allait un peu dans les banlieues, vous verrez que les choses sont quand même sacrément différentes. Et en réalité, il faut bien voir que l'ensemble de cette montée en puissance du répressif, elle va partir du plus loin, c'est-à-dire des gens les plus pauvres, et puis elle va remonter petit à petit à l'ensemble des citoyens. Et sans vouloir faire la pitié désagréable, on verra bien que dans 10 ans, on subira les effets des politiques pénales que nous avons mis en place aujourd'hui.
Eh ben, j'espère qu'on aura été un peu dérangeant ce soir grâce à vous
et
trois.
Vigilant.
Merci beaucoup en tout cas Mireille Delmas, Marty, Virginie Duval et Patrice Spinozzi d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez retrouver sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain. Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster, Eva Pellerin. Émission réalisée par Alexandra Longuet avec à la prise de son Jacques Hubert.